une série d'épisodes spéciaux sur les entrevues qu'on a effectuées au CQSI 2018. L'entrevue est réalisée par moi, Patrick. Et le concept va être qu'on va commenter chacune des entrevues avec Nicolas. Et on fait ça sur la terrasse à Québec, donc petite ambiance en plus. Donc voici la première partie. Comme prochaine entrevue, on a Alex Bebdard de Promutuel Assurance qui nous parle de l'implémentation d'un programme de sensibilisation à la sécurité en entreprise un an plus tard.
Ouais, on est avec Alex Bedard qui vient de donner une conférence au CQSI sur la sensibilisation en sécurité informatique. Et première question, en fait, j'aimerais voir ton approche. Qu'est-ce qui a été le plus facile, le plus difficile pour mettre en place un système de, un programme en fait de sensibilisation au niveau de la sécurité, considérant que vous partiez quand même de presque zéro?
En fait, c'est ça, le principal défi, c'est qu'on partait de zéro. En même temps, c'était le principal avantage là, de notre mise en place de programme. Ce qui a facilité ça beaucoup, c'est qu'on l'a attaché à haut niveau dans l'organisation. Là, j'en parle un peu dans la présentation, mais on est allé chercher le responsable de la sécurité au niveau organisationnel, donc le boss de la gouvernance. Mais lui, il est responsable pas juste de la sécurité, il est responsable de la gestion des risques, il est actuaire désigné de l'organisation. Fait qu'il y a quand même une vision globale. En gros, c'est lui qui organise les conseils d'administration, tout ça. Fait que lui, il est vraiment plugué à haut niveau. Okay. Puis dans le comité qui approuve le plan d'action puis qui suit les livrables, on a des gens de marketing, des gens des RH. Ça fait que ça a été notre côté facilitant, là, c'est qu'on est allé chercher l'adhésion à haut niveau du programme. Mm-hmm. Fait que ça a été intéressant. Le défi après ça, ben, c'est de construire le contenu par nous-mêmes. Là. On a pris la stratégie de dire on va y aller avec la base. Fait que là, des fois, il faut faire un message qui parle aux gens plus qu'un message qui parle au TI. T'sais, on a tendance à vouloir mettre plein la vue, mais concrètement, il faut parler aux gens qui connaissent pas les TI, qui connaissent pas la sécurité, puis qui connaissent pas les enjeux. Là. Fait que ça, c'était le défi, mais je pense qu'on y arrive quand même bien pour l'instant.
Puis y a-t-il un élément que tu dirais à quelqu'un, une organisation qui veut mettre ça en place, qu'il faudrait pas qu'il fasse ou qu'il devrait absolument faire?
Absolument faire, c'est attacher à haut niveau dans l'organisation. Pas être trop rigide dans l'approche. Là. Nous, on avait pris une approche où on avait un calendrier super agressif avec plein de livrables, plein de validations. Finalement, là, avec la capacité qu'on avait puis la grosseur de l'organisation, on a été obligé de mettre tout ça de côté. Là. Ça ne donnerait absolument rien d'être trop organisé si on ne livre pas de message. Là. Fait que c'est ça. Fait que je vous dirais, ça prend de la flexibilité.
C'est bon. Puis en termes d'enjeux de sécurité, au niveau de la sensibilisation, c'est lequel qui est le plus dur à passer?
Écoute, il y en a plein, là, mais je te dirais, nous, on est une shop d'assurance, fait qu'on a des gens qui gèrent des fichiers Excel. Puis les fichiers Excel, il y a des macros, il y a des affaires. Fait que c'est dire aux gens, quand c'est louche, je clique pas là-dessus, puis ils lèvent la main. Là. Fait que ça, c'est ce qu'on travaille le plus possible, là, mais notre enjeu, c'est vraiment la porte d'entrée, les courriels, les fichiers Excel, les macros, là, tout ce qu'on peut pas bloquer, mais qui est à risque. Là. Puis ça, on travaille sur plusieurs côtés pour ça, là, mais c'est un de nos gros enjeux parce qu'on ne pourra jamais bloquer ça. On ne pourra jamais empêcher Excel.
C'est jamais 100%.
On ne pourra jamais empêcher le macro parce qu'on a des actuaires qui utilisent des macros pour faire plein de choses. Fait que si on enlève ça, la business ne fonctionne plus. Fait que c'est d'assurer le minimum de ce que la business a besoin pour rouler.
Excellent. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Yes, bon, c'est good.
En termes de sensibilisation, je pense que le point intéressant qu'il faut apporter... c'est vraiment le concept d'inclure la sensibilisation, la sécurité, la formation des utilisateurs dès qu'ils sont engagés dans l'entreprise. Puis c'est un des points que je parlais avec Alex qui était dans leur plan pour la prochaine étape. Parce que sans gestion des nouveaux employés, mais il n'y arrivera pas grand-chose. Dans le sens que si on forme seulement les employés en cours et non pas les nouveaux, mais on se retrouve dans un cercle un petit peu vicieux qui va faire des choses bizarres. Là.
Ouais, puis ultimement, je pense que les entreprises, à certains égards, ont un degré de responsabilité tant qu'à l'éducation des gens. Normalement, en tant que société, on a tendance à penser que le gouvernement aurait une tendance à devoir avoir la responsabilité d'éduquer la population, mais dans ce cas-ci, on se retrouve dans un contexte où on a des employés qui manipulent l'information sensible dans le contexte de leur mission d'entreprise. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et je favorise à ce que les entreprises mettent l'énergie nécessaire à former leurs employés à ce degré d'information-là. Puis Alex Bédard a fait une belle démonstration que chez eux, chez Promutuel, ils ont réussi à avoir un certain degré d'information, de formation qui sont données à leurs employés, autant à l'entrée qu'en continu, pour les aider à manipuler l'information de façon correcte, pour protéger l'information de leurs clients de façon correcte, ce qui est très sain. Dans ce cas-ci, on a une démonstration d'une des compagnies. J'espère que les autres compagnies d'assurance aussi ont ce degré de sensibilité face à la formation des employés dans laquelle ils forment leurs gens à la manipulation de ces informations-là. Mais ça revient toujours au fait qu'il faut sensibiliser les gens parce qu'on est dans un monde d'information, on n'est pas formé à ça. Donc, d'aider les gens à simuler les faits qui manipulent l'information, qui sont sensibles et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose avec.
Oui, puis je pense qu'il faut aussi mettre de l'avant le point que la sensibilisation plutôt au niveau du travail. Si vous faites seulement envoyer des courriels puis des petites formations à vidéo en ligne, le pourcentage de retour d'investissement là-dessus est en bas de plus ou moins 10%. Ça donne pas grand-chose. Il faut vraiment impliquer le monde à l'année longue dans plusieurs types de sensibilisation, de formation, de campagne de phishing. Faut tout faire ces choses-là. On a vu beaucoup trop d'organisations qui faisaient juste envoyer un courriel tous les mois. Ça tombe presque dans le spam. Je veux dire, le monde va se faire une règle pour ne plus voir ce courriel-là parce que c'est pas intéressant. Il n'y a rien de spécial là. Puis c'est pour ça qu'il faut l'intégrer à tous les niveaux. Donc, ça fait le tour pour l'entrevue avec Alex Bédard. Comme prochaine entrevue, on parle avec Alexandre Fournier qui a présenté 9 facteurs de réussite d'un plan de continuité d'activité.
Donc, je suis avec Alexandre Fournier qui vient te présenter 9 facteurs de réussite dans un plan de continuité d'activité au CQSI 2018. Et comme question, en fait, on voulait voir et comprendre au minimum qu'est-ce que les entreprises, pour avoir un bon plan de continuité, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est quoi l'élément le plus important à penser pour mettre ça en place? Et aussi, peut-être la chose à ne surtout éviter, là, à ne pas faire.
Alors, par rapport à tout ça, il y a vraiment, c'est très très large en fait.
Il y a beaucoup de choses qu'il
faudrait faire et ne pas faire. Alors, si je me base sur la conférence que je viens de faire des 9 facteurs, je vais en prendre 3. La première, c'était pourquoi faire un plan de continuité d'activité. C'est déjà la première question à se poser réellement au niveau des différentes entreprises. Est-ce que je dois ou je ne dois pas faire un plan de continuité? Et quel est le périmètre qu'il faudrait que je couvre par rapport à mon activité là? Ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va pouvoir permettre de déclencher en fait la suite et l'étendue, l'envergure, de ce qu'on met comme plan d'activité par rapport à ça. La deuxième, c'est un cumul en fait de deux facteurs qui sont très très importants, c'est le fait qu'un projet de continuité d'activité doit être piloté, managé par la haute direction. Sans ça, sans l'appui de la haute direction, le plan de continuité sera un plan de continuité à moyen. Et en plus de ça, va coûter relativement cher parce que ça va durer dans la longueur, qu'il n'y a pas une attente de résultats vraiment efficiente. Avec ça, j'ajouterais le fait que c'est une notion de culture d'entreprise. Plus en fait les salariés, les personnels de l'entreprise et le haut management, la haute direction se sentent concernés, plus ça devient une culture d'entreprise, plus les gens d'eux-mêmes vont chercher les solutions qu'ils peuvent mettre en place pour mitiguer, pour limiter un sinistre. Ça va permettre de gagner énormément d'argent parce que tout simplement, plus eux-mêmes réfléchissent, moins ça fait appel à des consultants extérieurs, ce qui peut avoir un coût financier assez intéressant par rapport à ça.
La connaissance interne, oui.
La connaissance interne, et puis en effet, très juste, ça ramène en fait à amener des connaissances extérieures vers l'intérieur. Et dans les plans de continuité, quand on s'appuie sur des spécialistes extérieurs, sur des consultants extérieurs, bien souvent, une fois que le consultant extérieur, le plan de continuité a tendance à mourir gentiment dans son coin, et personne ne se l'accapare en interne. Et ça, tout ce qui est plan de continuité et de sécurité, d'ailleurs, de façon globale, doit être géré vraiment par les internes et pas laisser ça, en fait, à des consultants. Le consultant est là pour accompagner, aider, amener des connaissances, mais le reste doit être vraiment accaparé par rapport à ça. Et puis, je pense que ça va être pas mal tout. Si, allez, je vais vous faire un petit coup sur la partie réflexe et autonomie. Le fait de laisser de l'autonomie aux personnes de la compagnie permet justement de pouvoir gagner en termes d'efficacité sur un plan de reprise, au moment de la crise elle-même.
Ouais.
Plus les gens sont autonomes, plus ils ont des réflexes, hein, et mieux c'est en fait pour toute la suite, plus ça permettra d'accélérer facilement. Et je terminerai tout simplement par la gestion de crise, qui est vraiment le point central dans le cas d'une crise. Et là, c'est excessivement important que la gestion de crise soit bien rodée à la crise, à la perte de personnel, parce que ça peut arriver dans un sinistre, il peut y avoir des morts, des décès, il faut les gérer par rapport à ça. Donc voilà, je tournerai autour de ça.
Parfait. Puis en termes de pièges à éviter pour une organisation, avez-vous expérience que vous avez vue à plusieurs endroits?
Oui, c'est le fait de croire qu'on n'en a pas besoin.
Ouais.
Le fait de croire qu'on n'a pas besoin de plan de continuité d'activité, même à minima.
Ça arrive toujours aux voisins, évidemment.
Voilà, c'est ça, ça arrive toujours aux voisins. Donc, pour moi, dans les milieux financiers, c'est quelque chose, c'est une obligation légale par rapport à ça. Ça devrait être étendu à tous. Maintenant, ce n'est pas la peine de mettre un plan de continuité sur l'entièreté de sa business, mais uniquement sur les points qui sont les plus critiques, qui vous permettent de ramener de l'argent, de payer vos fournisseurs, etc. Donc ça, c'est vraiment de croire qu'on n'a pas besoin de plan de continuité et puis croire que ça n'arrive qu'aux autres. Mmh. Eh bien non, ça n'arrive pas qu'aux autres, parlez-en aux personnes qui ont été impactées par le 11 septembre ou par AZF en France.
Effectivement. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Je pense que le point principal à parler sur la continuité, c'est le fait que la plupart des entreprises ont un plan, mais qui n'est soit pas mis en place ou mis en place et jamais testé. Puis on l'a quand même vu à plusieurs reprises dans beaucoup d'entreprises au Québec.
Ben, les plans de relève est un univers à part. Puis c'est un univers dans lequel on doit ou continue les affaires, plus que le plan de relève. Puis ça dépasse autrement des technologies. Là, c'est sûr que les technologues sont appropriés ce genre de choses-là, mais la finalité, c'est qu'il faut que l'entreprise ou l'organisation puisse continuer à fonctionner malgré une défaillance technologique qui est maintenant le cœur même de comment les entreprises fonctionnent. Donc, il faut avoir une réflexion. Puis, un peu, c'est dans l'étendue de ce qui a été dans sa conférence et dans son énoncé par Alexandre, c'est que, puis on appelle ça en gestion de risque un black swan, c'est-à-dire que l'événement rare doit être tenu en compte, on doit le tester. On ne sait jamais quand il va arriver. Puis c'est tout le malheur de la relève, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va exploser. On a eu, personnellement, j'ai participé à la relève au niveau de l'an 2000. J'ai participé aux équipes qui ont veillé la veille jusqu'au passage le lendemain matin, tout ça. Mais c'est un élément de continuité dans lequel on devait vérifier. Puis c'est comme une assurance, on la paye, mais on ne sait jamais quand ça va servir, mais il faut la tester.
Oui, parce que sinon, on se retrouve dans la situation qu'on a mis beaucoup d'argent sur un plan et peut-être même des infrastructures, mais le jour que ça arrive, ça ne fonctionne pas. Puis là, on se retrouve un peu dans la boîte. Puis en même temps, comme tu dis, c'est pas juste une question de technologie. On n'est pas obligé de ramener toute l'infra technologique. Puis c'est un peu ça qu'il disait, juste les points critiques. En même temps, si la business peut fonctionner sur du papier, bien, le processus, c'est juste à dire de fonctionner sur du papier de telle manière.
Oui, c'est peut-être ça. Ultimement, pour les technologues comme nous, dans lequel on vit dans un univers où on croit qu'on est très important,
oui.
On est le cœur de la business, il faut peut-être ramener dans la conversation les gens d'affaires, les gens qui sont réellement en contact avec la clientèle et avec, pour, en tout cas, moi, parce que mes mandats sont plus au gouvernement, mais dans le privé, où est l'argent qui rentre et dans quelle mesure cet élément-là est important. Et donc, la clientèle, elle est touchée de façon sévère par une crise. Donc, pour arriver vraiment dans une réflexion ou business, puis dans quel...
Oui, puis je pense que tu viens d'énoncer le plus gros problème en sécurité, c'est les technologues ou les personnes en sécurité qui ne parlent pas business ou qui devraient plutôt parler business, puis... Tout l'enjeu est là.
Bon, on revient toujours à ça. Là. C'est ouais. Ceux qui nous financent en TI, c'est les business. Donc, on est à leur service et non l'inverse. C'est pas eux autres qui sont dans notre service.
Même si on pense autrement.
Ah, bien des gens que je côtoie pensent qu'effectivement, la business est à leur service, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Donc, ça conclut l'entrevue avec Alexandre Fournier. Comme prochaine entrevue, j'ai avec moi Benjamin Ducol du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui va nous parler aujourd'hui de radicalité violente, terroristes et réseaux numériques, une évolution et tendance et défis actuels.
Donc, je suis en compagnie de Benjamin Ducol, qui vient de donner une conférence au CQSI sur la radicalité de la violence terroriste et sur les réseaux numériques, sur Internet. Et première question, en fait, c'est quoi l'impact au niveau plus des organisations, gouvernements et des entreprises privées? Y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent faire pour aider dans ce sens-là, pour soit réduire ou sensibiliser là, tout ce qui est de la violence via Internet?
Alors, c'est sûr que depuis près de 20 ans, en fait, les acteurs qui sont des acteurs extrémistes, violents ou des acteurs terroristes ont investi finalement les produits numériques des entreprises privées, que ce soit des entreprises qui ont des plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, des plateformes de messagerie aussi, des plateformes aussi de stockage de données, des plateformes aussi qui parfois protègent des sites web à juste titre, par exemple Cloudflare qui va protéger des attaques de sites. Bah, les acteurs extrémistes finalement se servent aussi de ces entreprises-là pour leurs propres fins. Ouais. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de sensibiliser ces entreprises du secteur privé que leurs produits, qui sont des produits tout à fait légitimes en termes de sécurité informatique, peuvent être détournés de leurs usages par des acteurs qui, eux, vont faire des usages malveillants, justement pour propager des idéologies, des causes extrémistes ou même les utiliser à des fins de promouvoir des actions violentes. Donc il y a une forme de sensibilisation à faire du point de vue des acteurs privés là-dessus, et il y a une forme aussi de réflexion des acteurs privés à réfléchir justement quelle régulation ils peuvent mettre eux-mêmes en place, à défaut qu'ils se fassent imposer une forme de régulation, parce que c'est justement ce qui est arrivé un petit peu du côté de Twitter et Facebook, c'est que les États, voyant que ces deux plateformes étaient investi par beaucoup d'acteurs terroristes, notamment par exemple des gens qui étaient de l'État islamique ou sympathisant à l'État islamique, il y a une forme de pression qui a été faite par le gouvernement, notamment le gouvernement américain, à vouloir réguler. Et là, l'enjeu, c'est on tombe toujours sur la question de liberté, liberté individuelle, sécurité, et donc il faut trouver le bon équilibre.
Ouais, exact. Si on parle plus du côté hacking de la chose et au niveau des plus terroristes, ça ressemble à quoi leur implication ou leur niveau de talent et tout?
Alors, en termes de croisement des compétences techniques et finalement des usages opérationnels des réseaux numériques par les organisations terroristes, il y a un peu ce mythe du cyberterrorisme qui règne, notamment dans les milieux gouvernementaux, où il y a la peur d'une sorte d'apocalypse numérique le jour où, par exemple, un groupe terroriste viendrait à hacker, le système informatique d'une centrale nucléaire ou d'un réseau aérien ou peu importe. Ce qu'on remarque, en fait, quand on regarde les recherches, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont, ces groupes qui sont impliqués dans l'action terroriste n'ont pas des compétences techniques énormes et que du coup la plupart de leurs actions sont plutôt des actions techniques de basse intensité ou très peu techniques. Ça va être du piratage de sites web, du défacement, de plus en plus du doxing aussi, c'est-à-dire de la collecte de données personnelles, ensuite révélées grand public en encourageant les gens à commettre des actions violentes contre les gens dont les données personnelles sont révélées. Mais on n'est pas dans des actions qui sont des actions qu'on pourrait appeler de cyberterrorisme en tant que tel.
OK. Puis en termes de cyberterrorisme, si on peut dire, au niveau du Québec, est-ce qu'il y a des statistiques? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ici? Ou...
Non, je pense que c'est difficile de parler d'un point de vue géographique parce que tout ce qui est numérique, évidemment, dépasse les frontières physiques. Et donc, du coup, il n'y a pas tellement d'actualité québécoise ou au Québec en tant que tel. Mais on a le Québec... à un moment donné est souvent impliqué sur des enjeux de terrorisme. Par exemple, on a eu ici une personne qui a été arrêtée à Masquinongé, qui a été condamnée à plus de 10 ans de prison parce qu'il était l'administrateur d'un site djihadiste qui était lui-même hébergé du côté de l'Europe et qui diffusait de la propagande djihadiste à l'échelle du monde. Et tout ça était... Voilà, on avait quelqu'un de Masquinongé ici qui était un des acteurs impliqués. Donc on a des ramifications qui sont jusqu'au Québec, mais le Québec en tant que tel n'est pas nécessairement plus visé ou plus impliqué que d'autres endroits.
Excellent. Merci.
Super.
Donc, Nicolas, je pense que le point à retenir, c'est vraiment le threat model par rapport au cyberterrorisme qui est plus ou moins relié ou qui nous affecte très peu au Québec, puis voire au Canada.
Ben, c'est sûr qu'on n'a pas des acteurs, que du moins très, très visibles ou très actifs, de moins perceptibles par rapport à ce qu'on a au niveau grand public, au niveau de ce genre de choses-là. Ça n'empêche que le fait qu'ils peuvent être ici, comme ils peuvent être partout dans le monde, puis agir en termes de cyberterrorisme, c'est un peu l'aspect de non-position géographique de l'individu qui fait ça, parce que justement, le dernier élément que Benjamin mentionnait, c'est que la personne était à Meskinongé, mais gérait un site qui est en Europe qui faisait valoir des valeurs qui sont des valeurs islamiques. Fait que, tu sais, on est dans trois zones géographiques complètement différentes avec des trois zones de valeurs différentes. Fait que ça, il n'y a pas d'attache. C'est sûr que... Puis l'autre élément aussi que je trouve très intéressant, c'est... en tout cas, selon Benjamin, du moins, les attaques, puis en tout cas, ce qu'on peut voir en général aussi, d'ailleurs, sont d'un très faible degré de sophistication technique.
Oui, puis on se retrouve avec le concept d'Anonymous, tout ce qui est grande propagande en ligne et autres, qui sont faits par des kids ou un peu monsieur, madame, tout le monde avec une cause, qui n'auront pas tant le talent, mais qui vont avoir la cause à cœur plus que d'autres choses, qu'elles soient bonnes ou pas.
Oui, ben c'est ça, c'est un outil pour faire du bruit, puis les gens l'utilisent effectivement pour faire du bruit, autant sur les grands réseaux comme Twitter ou Facebook, qui ont été mises à mal dans ce cas-ci. Puis même à certains égards, Cloudflare a pris position, contrairement à Facebook et Twitter, où c'est le gouvernement qui a imposé des choses. Cloudflare a pris des positions peut-être moins populaires, disons, puis en ce sens où ils ont censuré du contenu. Fait que c'est dans quelle mesure on doit tolérer la censure, dans quelle mesure des propos haineux, puis tout ça, c'est des définitions qui sont très difficiles à... pour du moins les entreprises privées à établir.
Oui, puis dans le cas de Cloudflare, c'est que leur plateforme était utilisée pour empêcher de mettre des sites web de propagande haineuse down. Donc, eux ont décidé qu'ils les refusaient puis les tassaient. Donc, ces sites-là sont tombés par les attaques de ceux qui étaient contre l'islamisme radical et autres. Là.
Donc, c'est des grands débats qui vont continuer à se poursuivre pendant plusieurs années encore.
Exact. Donc, ça conclut l'épisode d'entrevue pour Benjamin Ducol. Donc, on conclut la première partie avec cette série d'entrevues et on se reparle pour la deuxième.